Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir l'amiral Alain Coldefy, grand officier de la Légion d'honneur, ancien major général des armées françaises. Bonjour, amiral.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous recevoir parce que vous êtes un personnage exceptionnel. On va le voir au cours de cette émission et surtout, on va parler de votre livre qui s'appelle « Le sel et les étoiles ». Quel joli titre. Avant tout ça, on va respecter cette émission dans laquelle il y a une question rituelle. Quel petit garçon étiez-vous ?
Oh, j'étais un gentil garçon, l'aîné de la fratrie. Voilà, j'étais plus de bon élève, intéressé par le sport. Et en fait, j'étais pas un garçon difficile. Je crois que toute cette petite enfance a été placée sous le signe de maternelle, puisque mon père était médecin militaire, était en Indochine à l'époque. Donc, j'ai peu de souvenirs de mon père avant l'âge de 6-7 ans. Et pour terminer ce portrait, c'est ma mère qui m'a appris à lire et écrire et qui m'a fait sauter deux classes pour rentrer dans le primaire, si bien que j'ai commencé ma scolarité avec 2 ans d'avance.
Alors, vous êtes originaire du sud-ouest de la France, du Lot plus particulièrement. Je crois que vous êtes né à Limoges et puis vous êtes originaire d'une région très particulière qui est la région du foie gras, la région du bien manger, du bien vivre. Ah, c'est une belle région.
C'est la plus belle des régions, forcément.
Forcément. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous êtes surtout un grand marin, un grand soldat français. Et j'ai lu votre livre, vous dites que vous n'étiez pas forcément attiré par la mer.
Non, pas du tout. Et en écrivant ce livre, je me suis posé la question, finalement, étais-je quelqu'un qui avait une vocation militaire et qui a décidé de l'appliquer sur la mer, ou plutôt un marin qui a appris à faire la guerre en étant marin? En réalité, je pense que j'avais d'abord une envie de navigation d'étoiles, d'aventure. Je me serais bien vu comme méhariste au Sahara au siècle dernier. Bien sûr, des récits de voiles, de Bougainville et tout ça. Et je le dis, je pense que j'aurais été, si j'avais pas été reçu au concours de l'école navale, j'aurais été sans doute prof de maths avec un bateau sur la côte atlantique. Voilà, je crois que ça résume ma vocation, mais qui s'est faite petit à petit, parce qu'il n'y a pas de marin dans ma famille. Il y a un seul militaire, mon père, mais qui était médecin, c'était la guerre de 40. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'autres significations militaires dans ma famille. J'avais un grand-père ingénieur à la SNCF et un autre à la direction commerciale des pneus Bergougnan. Vous voyez qu'on n'était pas du tout, on était loin de la mer.
Alors, vous êtes quand même allé au Prytanée militaire de la Flèche. Donc ça, c'était déjà une indication d'une vocation ou c'était vos parents qui avaient décidé que c'était une bonne éducation?
Non, c'est tout simple. Mon père, qui était médecin en 1960, était nommé à l'hôpital d'Alger. Au dernier moment, la direction l'a muté à Batna, dans le Constantinois, comme directeur de l'hôpital. Donc il a demandé à ses amis, voilà, mon fils aîné travaille bien, je vais partir, mais je peux pas l'amener. J'étais inscrit au lycée Bugeaud à Alger à l'époque. Hein. Où dois-je le mettre? Et ses amis lui ont dit, tu le mets au Prytanée. Donc j'ai passé le concours et je me suis retrouvé au Prytanée. Mais la seule chose que mon père m'ait dit à cette époque, c'est, tu vas au Prytanée, c'est un encadrement militaire, tu n'es pas du tout obligé d'être militaire. Et si jamais tu veux être militaire, je ne devrais pas le dire, je te déconseille l'armée de terre parce que lui avait vécu toutes ces périodes difficiles. Prends un métier d'ingénieur comme l'école navale qui était et qui reste toujours le concours le plus difficile au niveau d'ingénieur. Voilà comment j'ai été orienté, puis je me suis plu. Et finalement, j'ai passé un seul concours dans ma vie, c'est le seul concours d'entrée à l'école navale.
Que vous avez brillamment réussi.
Ah, oui.
Alors, ça démarre comment une carrière qui se termine 41 ans après? Parce que je crois que vous avez été 41 ans sur la mer.
Oui.
Comment ça débute?
De façon tout à fait naturelle, comme pour toutes les écoles militaires ou toutes les écoles, il y a une partie purement scolaire, dans laquelle, en réalité, à l'école navale, comme c'est une école militaire, il y a trois aspects fondamentaux qui sont enseignés. Le métier d'officier, vocation d'officier, encadrer les hommes, etc. Le métier d'ingénieur, parce que dans la marine, nous sommes tous des ingénieurs, il n'y a pas d'autres...
J'ai compris que ce n'est plus la marine à voile.
Non, mais je veux dire, on n'a pas de littéraire, on n'a pas d'économiste, on a uniquement des ingénieurs, parce qu'on met en œuvre des porte-avions, aux avions de combat, aux sous-marins nucléaires, etc. Donc c'est vraiment un métier très technique. Et bien sûr, la mer. Voilà, ces trois piliers qu'on nous enseigne à l'école, qui se terminent par une année d'école d'application de mon temps, c'était la Jeanne d'Arc et le Tour du Monde. C'était l'occasion de rencontrer le monde, nos diplomates, les pays étrangers, de voir un petit peu comment le monde était autour de nous. Et puis après, bon, on va dans une spécialité ou dans un mode qui nous conduit par étape, selon la voie qu'on a choisie. Ça peut être l'aéronautique navale, c'est-à-dire le pilotage, tout en restant marin. Ça peut être la marine de surface, c'est-à-dire marin, ça peut être les sous-marins, c'est-à-dire les sous-marins plus la marine de surface.
Les submersibles, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement.
Je vous ai lu,
la partie qu'on appelle fusiliers marins et commandos, puisque c'est, et en particulier chez les commandos, les nageurs de combat qui recrutent généralement en tête de classement de l'école navale, car c'est sans doute la spécialité la plus difficile. Il faut être marin, commander des bateaux, il faut être commando, et chez les commandos...
Ça, c'est physique, quand même.
C'est physique, donc c'est surtout... je ferai un parallèle avec le GIGN par rapport à la gendarmerie. Le nageur de combat idéal est un homme de entre 28 et 35 ans, plutôt marié, deux enfants, et qui sait peser les risques, mais va au bout de la mission. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que, et ça c'est la spécificité des marins, c'est que on peut l'envoyer à l'autre bout du monde, on peut envoyer une toute petite équipe, les gens savent se débrouiller, et les marins parlent tous anglais. Voilà, c'est un petit peu le... Mais c'est une carrière qui, vous savez, le dernier préfet maritime de Toulon, l'amiral Isnard, était un nageur de combat. On peut aller au sommet de la hiérarchie. Donc une fois qu'on a choisi une de ces quatre voies, eh bien on commence dans la carrière, on accomplit, j'essaie de commander des bateaux, etc.
Après, alors vous avez choisi ?
Alors moi j'ai choisi la marine de surface. Je dirais que comme je suis du sud-ouest, toute l'équipe de rugby partait au sous-marin et j'ai longuement hésité.
Ah, pour être avec les camarades.
En plus, j'étais le capitaine de l'équipe de rugby. Donc, et puis, non, il fallait tout de suite faire une carrière dans les sous-marins et partir pendant des années dans les sous-marins. Donc j'avais quand même envie d'aller à Tahiti avant, donc je suis parti à Tahiti.
Puis voilà, fait rêver Tahiti.
Ah oui, ça fait toujours rêver d'ailleurs, même 40 ans plus tard. Voilà, et puis après, vous avez, donc c'est ponctué de commandement, et puis vous avez... Un deuxième aspect de la carrière, mais qui n'est pas propre à la marine, qui est un aspect où on développe des compétences dans le domaine budgétaire, dans le domaine des programmes, dans le domaine des relations internationales, dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine... De toute façon, que les opérations restent le fond de base. Et puis une troisième étape, c'est l'étape de directeur général, d'officier général, là, qui est une étape où on devient généraliste. Comme général, c'est généraliste, donc amiral. Et là, on a des postes très variés. Moi, j'étais directeur des relations internationales des armées, j'étais directeur des opérations, j'étais... Donc je dis directeur, chez nous, on appelle ça sous-chef, mais voilà.
Le directeur et le sous-chef.
Exactement, c'est l'équivalence administrative.
Il y a un autre vocabulaire.
Oui, le vocabulaire est très différent, de même que le major général. Les armées, c'est un des deux postes à 5 étoiles à la tête des armées, donc c'est le DG, je dirais des armées, c'est le numéro 2, voilà.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant?
Ah, peut-être une nocturne.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine. Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec l'amiral Coldefy. L'amiral Coldefy, ancien major général des armées françaises. Je suis très fière, pour les auditeurs de Radio Cité Genève, de pouvoir parler, échanger avec ce grand marin et ce grand soldat français qui est ici à notre micro aujourd'hui, et je l'en remercie beaucoup. Alors, maintenant, vous nous expliquez beaucoup de choses, et je suis partie de votre livre, et vous avez profité de l'interruption pour nous raconter quelque chose de très drôle quant aux appellations que l'on doit donner, aux titres que l'on doit donner dans la marine. Vous pouvez nous répéter ça ?
Oh, c'est assez simple, il y a deux ou trois choses à savoir. Dans la marine, il n'y a pas de sous-officiers, mais des officiers mariniers dont le grade pivot est le grade de maître, car c'est la maîtrise, et c'est le corps de maîtrance. Alors vous avez des agents de maîtrise, des cadres de maîtrise, donc au-dessus de maître, qui est l'équivalent de sergent dans l'armée, sergent chef dans l'armée de terre. Vous avez premier maître, maître principal, et en dessous, second maître et quartier maître. Ce sont des grades que l'on féminise pas. Vous imaginez appeler votre première maîtresse.
Maîtresse pour... Première maîtresse, ce serait très ennuyeux.
Ou seconde maîtresse, donc ce sont des grades qu'on ne féminise pas. Dans... Et les femmes refusent, bien évidemment. C'est tout à fait normal. Pour les officiers, en réalité, il y a tous les grades, 2 galons, 3 galons, 4 galons, avec des textes et des appellations réglementaires. Mais l'appellation de la personne qui possède ce grade, elle est toute simple. C'est lieutenant, capitaine, commandant. Mais dès qu'on a commandé quelque chose, on est appelé commandant. Et puis la voie suivante, c'est amiral. Donc quand vous voyez un officier de marine, vous l'appelez selon son âge, soit commandant, si vous paraît assez jeune. Si vous paraît moins jeune, vous l'appelez amiral, il sera flatté s'il n'est pas amiral. Et si vous voyez un vieux, vous l'appelez commandant, il sera ravi qu'on le rajeunisse.
Oh, c'est très mignon. Merci encore. Merci pour le conseil. Mais nous croisons ici en Suisse, vous le savez bien, amiral, que nous avons peu de façade maritime, pour ne pas dire pas du tout. Donc nous croisons assez peu d'amiraux et de marins, en général, moins d'être en France. Alors... Vous dites dans votre livre que les militaires ont toujours une petite gêne à raconter leur parcours et leurs actions.
Oui.
Pourquoi ?
Je pense que, comme toujours, et les gens de ma génération ont l'exemple de leurs parents et leurs grands-parents qui ont été impliqués dans la Première Guerre mondiale et dans la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont fait beaucoup de choses n'en parlent pas. Il faut les faire parler, et souvent on laisse passer le grand-père qui a été dans les tranchées, ou le voilà. Et on s'aperçoit après qu'on a laissé une mine d'or de souvenirs humains, et c'est un peu comme la confiture, là, moi on en a, plus on l'étale. Ceux qui se racontent beaucoup, en général, n'ont pas fait grand-chose. C'est une tendance, c'est un peu une caricature, mais en réalité... Plus vous avez fait de choses, mais moins c'est communicable. Si je vous parle du mal de mer, si vous n'avez jamais eu le mal
de
mer...
Vous en parlez dans votre livre.
Mais oui, mais vous...
Vous parlez même de cette militaire féminine charmante qui est venue vous interroger dans une période difficile pour elle. Oui, vous avez été à la fois confesseur et médecin.
Oui, c'est ça. Un peu papa aussi, bien qu'on n'avait pas une grosse différence d'âge. C'est une jeune polytechnicienne, effectivement. Puisque vous faites allusion, cette jeune fille avait ses règles et le bateau bougeait beaucoup. Et puis elle a vu sur la boîte de, je ne sais pas si c'était la notamine.
La notamine,
déconseillée pendant les règles. Donc elle est venue voir son instructeur pour me dire qu'est-ce que je fais. Ben, j'ai dit, écoute, tu prends les comprimés, tu vas te coucher parce qu'on est en formation, tu n'as pas la peine d'attraper mal. Mais ça m'a pas surpris. J'étais déjà marié, père de famille, donc j'ai trouvé un qui avait une grande confiance de cette jeune fille, que j'ai revue plus tard, qui a fait un beau parcours comme polytechnicienne. Et puis la réalité des choses, c'est que ce sont des choses qu'on ne communique pas. Le mal de mer, on l'a eu ou on l'a pas eu. Tant qu'on l'a pas eu, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, personne ne vous croira.
On
c'est un peu comme en avion, si on vous fait faire un tonneau barriqué et que avec une ressource à plusieurs G, tant que vous ne l'avez pas faite et que vous n'avez pas eu l'estomac qui est descendu
dans les talons,
voilà, ou surtout qui remonte. Qui descend, ça va, mais qui remonte, c'est un peu plus dur.
Alors, justement, vous parlez beaucoup de cette vie à bord, il faut nous expliquer, parce que vous savez, vu de l'extérieur, on ne sait pas. Au fond, un bateau comme ceux que vous avez commandés, ce sont des villes entières. J'ai retenu, par exemple, dans votre livre, vous avez commandé un bateau qui avait 266 mètres de long.
Oui, oui, porte-avions, voilà. Ça.
Comment ?
C'est le porte-avions Clémenceau.
Le porte-avions Clémenceau.
Oui,
vous dites que c'est un très grand honneur, d'ailleurs, de l'avoir dirigé, de l'avoir commandé. Et vous expliquez qu'il y a 15 étages.
Oui.
2000 locaux différents.
Exactement.
Et vous expliquez aussi qu'il y a 2000 marins dans des postes où ils dorment à plus de 60... Alors, j'ai sur 4 étages de... Banettes. Alors les banettes, c'est des couchettes.
C'est la couchette, c'est l'appellation maritime des couchettes, les banettes, comme on avait autrefois dans les trains, vous savez, avec deux couchettes dans les wagons-lits ou dans les wagons. Oui, alors ça c'était le Clémenceau, je l'ai commandé en fin de vie opérationnelle, mais c'était la conception des années 50, bien sûr, donc où j'allais dire, le confort de vie n'était pas considéré comme essentiel, hein. On mettait une coque, un moteur, et des armes, et puis après on mettait les gens à l'intérieur pour qu'ils fassent marcher tout ça. Ça a totalement changé depuis 30
Alors,
ans.
Alors ça a changé comment maintenant ?
Alors ça a changé parce que d'une part on a besoin de beaucoup moins de monde pour manœuvrer, pour faire par exemple la propulsion et les machines, maintenant beaucoup de choses sont automatisées. Les mécaniciens, vous savez, ils étaient comme vous voyez, dans les trains, avec le
charbon.
Non, pas le charbon, mais c'était les brûleurs de mazout, etc. Oui. Voilà. Et puis donc, c'était un métier très, très difficile, par 50, 60 degrés, etc. Donc maintenant, tout est automatisé. On a divisé par 2 ou 3 le personnel qui était consacré à ça. Et dans les autres, j'allais dire spécialités, si je prends l'artillerie, vous aviez autrefois 7, 8, 9 hommes autour d'une tourelle, etc. Maintenant,
alors qu'est-ce que c'est qu'une tourelle ?
Alors une tourelle, c'est ce qui englobe le canon.
D'accord.
On a parlé des Césars à la télévision, ben c'est ce qui... Vous avez le tube du canon, et puis le César, c'est le véhicule, et ben sur un bateau, c'est une tourelle, à l'intérieur desquelles il y a tout le mécanisme, l'arrivée des munitions, et tout ça, maintenant, c'est automatique, il n'y a plus personne dedans. Donc on a gagné, on a divisé les équipages par 2 ou 3, donc on a gagné de la place. Les équipements sont beaucoup plus informatisé, sophistiqué, donc il y a moins de volume pris par les groupes électrogènes, l'informatique a remplacé, les vieux calculateurs ont été remplacés par des cartes à puces, donc on a gagné de l'espace. Alors bien sûr, on l'a comblé par des équipements nouveaux, parce que ça, on n'échappe pas à ce genre de choses. Donc, à l'époque du Clémenceau, effectivement, on avait ce qu'on appelle les postes d'équipage, là, c'est ceux qui sont au rang le plus bas, qui étaient très nombreux, sachant que, comme on tourne toujours, il y a toujours des gens qui travaillent, ça marche 24 heures sur 24, un bateau. Hein. Donc il y a toujours des gens qui dorment, des gens qui font le quart, des gens qui essaient de se reposer.
Oui, ça c'est fascinant aussi à lire.
Ça, c'est... C'est H24.
Et les 100 pompiers qui sont...
Alors, bien sûr, il y a une centaine de pompiers sur les bateaux, parce que tout ce qui est avarie, incendie, explosion, et ce qu'on appelle la résistance aux avaries de combat, le damage control en anglais, c'est-à-dire explosion due à un missile qui arrive, ou une torpille, etc. Tous les jours, on s'entraîne, même à quai. Ça, il n'y a pas de... Dans toutes les marines occidentales, tous les jours...
On va en reparler tout à l'heure, parce que ça aussi, c'est très important.
Voilà.
On va écouter maintenant...
Ah, Ray Charles, oui, si vous voulez bien.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Don't you come back no more.
I didn't understand
you. Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come
Oh, now, baby, please.
Don't you come back no more.
What you trying to do to me?
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec l'amiral Coldefy, ancien major général des armées françaises. Amiral, vous nous avez raconté ce qu'il y avait autrefois sous le bateau. Et qu'est-ce qu'il y avait au-dessus ? Tous ces avions ?
Ah, sur le porte-avions, bien sûr. Le porte-avions, en fait, c'est une base aérienne avec 30 à 40 avions. C'est comme dans un parking, s'il y en a 35, c'est plus facile à manœuvrer que s'il y en a 40. Voilà. Car en même temps, je veux dire, il y a l'emploi du groupe aérien, mais aussi il y a l'entretien, la maintenance, la réparation et la mise en condition. Quand le porte-avions apparaît, c'est comme à Roissy ou à Genève, il y a des avions H24 en l'air, tout le temps.
Alors, vous voulez dire qu'il y a le bateau.
Le bateau
qui peut être en surface ou qui peut
être... Le bateau, il est toujours
celui-là,
en surface.
Il est toujours en surface, ah, celui-là.
Celui-là, il descend pas sous l'eau. Il n'est pas submersible, non, pas heureusement d'ailleurs. Et donc, lui, son arme principale, c'est son groupe aérien, pour le Charles de Gaulle, les Rafales. Et donc, ces avions viennent d'une base à terre... On les recueille, comme on dit, en mer, donc ils appontent.
Alors j'ai retenu le mot apponter. C'est quand ils arrivent.
Il y a un pont, donc on apponte.
Et alors, il y a des manœuvres très compliquées, puisqu'il y a très peu de distance, au fond, pour apponter.
Alors, pour apponter, en fait, l'avion arrive à peu près à 200 à l'heure. Il a une masse autour de 15 tonnes. Il faut qu'il s'arrête en 50 mètres, à peu près. Donc, en travers de la piste, il y a de grosses élingues, qui ont des gros câbles d'acier. Et puis, l'avion, à l'arrière, a une espèce de crochet qui s'appelle une crosse d'appontage. Et cette crosse, elle est sortie, et puis elle doit accrocher un des filins. Et ayant accroché ce filin, c'est un peu compliqué, c'est de la physique élémentaire, mais enfin, il y a des fluides qui font que ça freine un petit peu. Et donc, l'avion est freiné, passe de 200 à l'heure à zéro en 50 mètres. Voilà. Donc, il faut 200 à l'heure. Il faut viser, en gros, une grosse porte de garage de 2-3 mètres de haut et de 400 mètres de large, parce qu'à droite et à gauche, il y a des gens, il y a des avions, il y a des munitions, il y a du carburant, etc. Donc, si on se trompe... Il ne faut pas être trop bas, sinon on percute l'arrière du bateau. Pas trop, sinon on passe au-dessus du porte-avions.
Et on refait un tour.
Il faut recommencer, oui, mais il n'y a pas autant de pétrole quand même, il faut recommencer. On peut recommencer trois fois, en fait.
Et puis, c'est ce que vous expliquez. Vous expliquez d'ailleurs dans votre livre que quelqu'un avait raté deux...
Oui.
Quelqu'un qui ne ratait jamais ses appontages en avait raté deux. Exactement. Et vous avez découvert c'est parce qu'il était inquiet pour ses examens à l'école de guerre.
C'est un résultat de l'école de guerre, effectivement. Oui. Mais parce que derrière tout ça, vous voyez, on parle un peu de technique, de vitesse, de masse, etc. Mais ce sont des hommes, hein, des hommes et des femmes maintenant, puisqu'il y a plus de femmes.
Il y a des femmes aux commandes de ces avions ?
Oui, il y en a maintenant. Oui. Depuis longtemps dans l'armée de l'air, comme dans l'aéronaval, il y a des femmes. Dans l'armée de l'air, il y a eu une femme qui était...
Vous avez même donné un pourcentage.
Ah oui.
Alors l'armée de l'air, 28%.
L'armée de l'air... plus féminisée que la marine, qui est la moins féminisée, et l'armée terre. C'est normal, parce que l'armée de l'air, l'outil de combat, c'est l'avion. Donc, en dehors de l'avion et de son pilote, je veux dire, c'est du soutien, au sens noble du terme. Hein. Mécanicien, motorisation, préparation des radars, des munitions. Donc ça, c'est un métier qui peut être facilement féminisé. Sur un bateau, il faut vivre ensemble. Donc, tant qu'on n'a pas réussi à trouver des bateaux qui étaient conçus à l'origine pour que les femmes puissent vivre à bord, parce qu'en réalité, ce qui est difficile dans la vie, vous pouvez le comprendre facilement en tant que mère de famille, c'est pas la mixité, c'est la promiscuité. Si vous avez des enfants, moi j'ai des jumeaux, ce sont des garçons, mais si j'avais eu un garçon et une fille comme jumeaux, à 14 ans, ils n'auraient pas pris leur douche ensemble.
C'est vrai.
Voilà, c'est ce que j'appelle la promiscuité. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé les moyens de construire des bateaux, on a d'abord transformé les vieux, comme le Clemenceau, puis après on a construit des bateaux où les logements féminins étaient conçus pour ça. C'est pour ça que la marine est un petit peu en retard, elle est moins féminisée que les autres armées.
Sur les bateaux, vous dites qu'il y a 9% de personnel féminin embarqué.
Oui, à peu près, oui, 9 c'est à 10%. Ça. Parce que ça se monte petit à petit, et on est en train de... On vient de faire les premières patrouilles de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins avec des femmes. Là aussi, c'est le problème de la promiscuité, puisque fallait des femmes officiers ou ayant un rôle qui leur permette d'avoir une chambre, on ne dit pas de cabine, on ne dit pas les cabines dans la marine, une chambre isolée.
Ah, on dit chambre.
Oui, on a une chambre.
Alors on dit la cabine sur les bateaux marchands,
oui,
c'est
oui,
ça
voilà,
oui. Oui, non, non, sur les bateaux de plaisance.
Oui, enfin les autres, quoi.
Voilà.
Et donc les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui existent déjà, ont déjà fait des patrouilles avec des femmes, et les nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque qui rentrent en service, eux, dès l'origine, ont été conçus pour avoir des logements féminins. Mais les sous-marins, pendant trop longtemps, jusqu'aux dernières générations, avec ce système où pendant 24 heures, tout le monde travaille 24 heures sur 24, il n'y avait que deux couchettes pour trois personnes. Il n'y avait pas de place.
Donc, oui, alors il faut que les dames aillent dormir dans la couchette des messieurs.
Qu'on appelle la couchette chaude, parce que c'était comme ça, parce que de toute façon...
Là, c'est sportif.
On peut pas être sous la mer, tout le monde dort tranquillement pendant la sieste. Donc c'était comme ça.
Alors c'est une question ça d'ailleurs, parce que c'est... quand on parle de ces sous-marins, on a du mal à imaginer. Alors tout d'un coup, ils plongent,
oui.
Vous êtes sous l'eau,
oui.
Et là, il se passe quoi?
Alors, sous l'eau, en fait, il faut écouter tout ce qui se passe, parce que...
Avec les
écouteurs et les sonars, parce que les ondes électromagnétiques ne passent pas sous l'eau. Donc, vous pouvez toujours essayer d'émettre avec une radio ou un radar, ça marche pas sous l'eau, il y a que le son qui passe. Et c'est la raison pour laquelle tous les grands pays ont confié leur dissuasion nucléaire aux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, parce qu'ils sont quasiment encore, pour sans doute pas mal d'années, quasiment indétectables, voilà. Et le son se propage dans l'eau en gros à 1500 mètres secondes, c'est-à-dire 4 à 5 fois plus vite que dans l'air, mais il ne va pas droit. Et il part de façon courbe dans un sens ou dans l'autre.
Il suit des mouvements de la mer ou
non, il suit les gradients de température.
Là, ça devient savant. C'est,
ouais. Parlons clair. Si vous émettez de façon horizontale et que la température de la mer descend au fur et à mesure qu'on descend dans l'eau, ce qui est assez logique.
On descend jusqu'à combien sous l'eau.
Je vais dire de façon opérationnelle. Alors les sous-marins occidentaux de façon opérationnelle, 300 mètres, qui est énorme, et ils sont résistés. Normalement, ils résistent à 3 fois cette pression. Voilà.
Oui.
Donc, mais on ne va pas au-delà de 300 mètres, en tout cas, sont les chiffres officiels. Et donc, votre son se propage, il va aller inexorablement vers le fond. Imaginez votre lampe, je vous éclaire, mais ma lampe n'arrivera jamais, elle ira inexorablement sur la table. Alors après, si la température remonte, ça peut remonter, etc. Donc là, il y a toute une science dans laquelle, d'ailleurs, les Français sont très bons, parce que on a consacré énormément à notre dissuasion pour qu'elle soit indépendante. Donc, on travaille sur la météorologie, l'océanographie. Un des anciens chefs d'état-major de la marine était docteur en océanologie de l'Université de Montréal. On travaille avec les Américains de façon très, très proche. Parce que là, c'est vraiment un monde total. Et le sous-marin, lui, donc, il se déplace dans cet univers. Il essaie de ne pas être détecté. Et comme il est en position un petit peu favorable pour détecter les bateaux de surface. Et le dernier point, c'est que c'est la seule menace pour un bateau de surface, c'est le sous-marin. Churchill l'a dit, la seule menace qui, pour moi, pouvait mettre en péril le sort de la Deuxième Guerre mondiale, c'était les sous-marins. Et je vous rappelle qu'en fin 42, on avait coulé 800 sous-marins allemands, et c'est à ce moment-là qu'on a pu ravitailler l'Europe et faire revenir les convois tranquillement. Le sous-marin, pourquoi? Parce qu'il tape sous la coque, sous la flottaison, et ça s'appelle en architecture navale les œuvres vives, vitals en anglais. C'est-à-dire que si vous tirez là-dedans, vous tuez. C'est-à-dire vous faites un trou, vous cassez la poutre, et là le bateau sombre en 3 minutes. Si vous tirez au-dessus, vous faites des trous, incendie, etc. Mais le bateau ne coule pas. Normalement, le bateau ne coule pas.
On va écouter les Beatles, d'accord?
Ah oui.
Qu'est-ce qu'on écoute?
Allez. All you need is love.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Nothing you can make that can't be made. nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec l'amiral Coldefy, ancien major général des armées françaises, un personnage considérable, un grand marin, un grand soldat français, qui nous explique très simplement la vie à bord, soit de ces porte-avions extraordinaires sur lesquels on a entendu les appontages, alors tous ces avions qui arrivent, qui repartent. C'est assez extraordinaire, ce ballet est assez extraordinaire. Et puis vous nous parlez, amiral, de la vie dans les sous-marins maintenant, donc sous l'eau, avec le rôle du sous-marin qu'on n'avait pas forcément compris ou imprimé. Et puis aujourd'hui, moi je voudrais savoir un peu plus la vie de tous les jours dans le sous-marin. On fait quoi? Comment est-ce qu'on se garde en forme physique déjà maintenant à 300 mètres sous terre?
Alors, moi j'ai fait très peu de sous-marins, j'ai assez pour ma formation, mais je n'ai pas vécu de longues semaines ou de longs mois comme sur les bateaux, comme sur porte-avions, etc. À bord d'un sous-marin qui part, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins par ceux qui ont les missiles de la dissuasion, et qui part entre...
Alors les lanceurs d'engins, donc les engins c'est quoi?
Les engins ce sont les missiles stratégiques de la dissuasion nucléaire, c'est ces missiles qui portent l'arme nucléaire et qui portent à... autour de 10 000 kilomètres.
Alors oui, hier soir, vous avez donné une conférence à laquelle j'ai été très heureuse d'assister.
Oui.
Et vous avez expliqué la portée des engins nucléaires.
Oui. Ben, on est passé, en 30 ans, on est passé de 3 000 à 4 000 kilomètres à 11 000 kilomètres. C'est-à-dire que le sous-marin, d'où il est, on ne sait jamais où il est, il n'y a aucun endroit de la Terre qui lui échappe. Alors c'est vrai pour les sous-marins américains, les sous-marins anglais qui ont les missiles américains, les sous-marins français et les sous-marins russes, et peut-être dans quelques temps, les sous-marins chinois. Les membres permanents du Conseil de sécurité se caractérisent par l'arme nucléaire, les sous-marins nucléaires, leurs sœurs d'engins, et ils essaient tous d'avoir des porte-avions. C'est les trois outils, si vous voulez, qui permettent d'être membre permanent du Conseil de sécurité. Alors, la façon dont on vit, si on parle des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, donc il y a 16 missiles, etc. Et entre chaque silo de missiles, vous avez comme chez vous, dans votre appartement, le petit vélo d'appartement.
Et tout le monde s'entraîne.
tout le monde s'entraîne.
Tout le monde pédale sous la mer.
Tout le monde fait son petit vélo pour rester en forme quand il n'est pas de car, quand il n'est pas de repos, quand il n'est pas d'instruction ou quand il n'est pas de réparation ou de maintenance. Parce que c'est un outil. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, si vous voulez, c'est 1000 fois plus complexe en ligne de programme qu'un Rafale, qui représente le summum de ce qu'on fait de complexité en aéronautique ou en avion américain. Hein. C'est 1000 fois plus compliqué. Il y a 1000 fois plus de lignes de programme informatique sur un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Parce que là, on n'est pas sur 266 mètres, on est sur 120 mètres à peu près, 15 000 tonnes, avec un équipage de 115 personnes. Le porte-avions, c'est 2000, pardon. Et donc, la complexité est énorme. Et donc, il y a une centrale nucléaire, il y a des armes nucléaires, il faut manœuvrer, il y a des torpilles, voilà, je parle des sous-marins qui, de la dissuasion, parce qu'il y a également des sous-marins nucléaires d'attaque. Qui,
donc il y a la dissuasion et l'attaque.
L'attaque.
Et ce sont deux sous-marins différents ?
Totalement. Les sous-marins nucléaires d'attaque ont une centrale nucléaire pour la propulsion, bien sûr, mais ont des armes classiques. Par exemple, le missile de croisière dont on parle, qui est tiré sous l'eau et qui va jusqu'à 1000 km, ou des torpilles tout simplement, ou des sas pour les nageurs de combat, enfin tout un tas de choses qu'on fait quand on attaque. Donc l'important là, c'est effectivement, c'est de se maintenir en forme physique, et bon, je vous ai parlé du petit vélo qu'on a entre les... Parce qu'on voit, je peux le dire, parce qu'on le voit de temps en temps à la télévision, quand il y a une visite, les gens posent toujours la question, ils veulent voir la cuisine, l'entraînement, etc., etc.
On mange bien dans les sous-marins.
Ah, il faut bien manger.
Il faut bien manger, hein. Sinon, on perd le moral.
Il faut bien manger, mais je veux dire, il y a quand même un médecin qui surveille la diététique et la qualité nutritive, etc. Donc, on apprend des choses toutes simples, des choses de cantine d'ailleurs. Il faut des couleurs différentes. Si vous faites manger que des plats qui sont gris, vert, jaune, rouge, ça influe sur le moral. Donc, il faut varier les couleurs. Il faut en plus mélanger tout ce qu'on sait. Les féculents, les glucides, enfin, tout ça. Mais tout ça, il y a un médecin à bord, et donc c'est très très sérieusement contrôlé, parce que, en particulier à bord des sous-marins, où il n'y a pas d'évacuation sanitaire.
Certainement. Donc, voilà, alors revenons au bateau de surface, oui, que vous avez commandé.
Oui.
Racontez-nous, par exemple, pour le dernier, le plus prestigieux,
oui,
qui était le
Clémenceau.
Quelle est la vie de l'amiral Coldefy à bord du Clémenceau? Racontez-nous une journée.
Non, alors, je vous raconte la journée du commandant.
Ah, du commandant.
Parce que j'ai été amiral sur le Foch, avec mon état-major, mais il y avait un commandant. Moi, j'ai été aussi commandant du Clémenceau. Le commandant du Clémenceau, donc, il gère la mission du porte-avions, qui est de mettre en œuvre le groupe aérien pour des missions qui lui sont confiées par l'état-major de l'amiral. Donc, il faut que les avions soient préparés pour leur mission, disponibles.
Alors, qui décide de tout ça? C'est le ministre de la Guerre ou c'est...
Ah non. Vous avez un amiral qui commande la flotte, que j'ai été quand je commandais la flotte franco-britannique, là, qui reçoit une mission, et s'il s'agit de cibles à terre, les cibles sont... on fait ça de façon très globale. C'est un grand centre de commandement des opérations qui est à terre, hein, à partir duquel on gère toutes les missions.
Alors, qui sont les donneurs d'ordre?
Alors, le donneur d'ordre... Alors, le cas du porte-avions est différent, parce que les porte-avions ne sont jamais intégrés dans les forces, dépendent directement du président.
Donc, ah, du président de la République?
Oui, parce que c'est un outil tellement prestigieux qu'il garde la main sur ce que fait le porte-avions. Mais pour revenir aux avions de combat, là, qu'ils soient de la marine ou de l'armée de l'air, il faut avoir la capacité de commander les opérations, c'est-à-dire de planifier 10 jours à l'avant, de regarder les cibles, etc., de réagir, d'interréagir, etc. Ça se fait à partir de grands centres de commandement. La France en a un à Montverdun, autour de Lyon. Elle peut commander, ça c'est l'armée de l'air, elle peut commander des opérations dans le monde entier. Le porte-avions Charles de Gaulle peut également commander, concevoir et commander des opérations de moindre envergure, y compris avec des avions qui sont basés à terre. Donc on a ce concept d'opération qui est fait et qui dit, voilà, tel jour à telle heure, tel équipement, tel rafale équipé de tel type de missile pour telle cible. Ça c'est, je veux dire, ce sont des opérations planifiées. Et puis il y a des opérations qui sont moins planifiées parce que la situation évolue. Donc il faut qu'on ait des avions en l'air, si je puis dire, en alerte, et qu'ils soient parés à intervenir quand les avions de surveillance, les Hawkeye qu'on a sur le Charles de Gaulle, indiquent où est la cible. Donc il faut que les missions sont préparées. Une mission, c'est 4 à 5 heures de préparation, à peu près.
Chaque jour?
Pour une mission d'un avion.
Pour une mission, 4 à 5 heures.
Oui, de préparation avec les salles.
Et combien de personnes autour de la table pour préparer cette mission?
Alors, je dirais, il y a une trentaine de personnes si on inclut la partie purement mécanique, mais dans la partie opérationnelle, c'est une quinzaine de personnes. Alors, c'est dans des salles de renseignement qui analysent tous les renseignements qui arrivent d'un petit peu partout.
Alors les renseignements, c'est les renseignements militaires.
Renseignements militaires sur la. Là, on est dans la partie purement militaire. Là, on fait plus de politique. On est à la partie purement militaire. Donc, il y a tous les renseignements arrivent. Du coup, le commandant propose à l'amiral, en fonction de la situation, voilà, je suis capable de vous mettre 3 missions de bombardement le matin, 4 l'après-midi, de la défense aérienne toute la journée, ou de faire de la l'intervention de nuit, du bombardement de nuit ou du lancement de missiles. Donc ça, ça s'ajuste. Et après, une fois que ces missions sont déterminées, les pilotes se réunissent en salle d'alerte. Ça, c'est les pilotes, vous les voyez dans les films avec en tenue de vol. Et là, le chef du dispositif ou le chef de patrouille explique à ses coéquipiers comment, catapultage à telle heure, rassemblement, ravitaillement, mission, retour, les indicatifs, etc.
On chôme pas hein, quand on est commandant sur un bateau.
Alors, ça, c'est la machine. Nous, quand on est commandant sur un porte-avions, si vous voulez, vous avez de grands adjoints. On commande par subsidiarité, on commande pas de façon verticale. C'est pas un régiment d'infanterie. On commande, par subsidiarité, il y a un grand adjoint pour les opérations, il y a un grand adjoint pour tout ce qui relève du groupe aérien, c'est-à-dire à la fois le pont d'envol, le hangar, les appontages, les catapultages.
Oui, la complexité des opérations.
Il y a un grand adjoint, tout ce qui est la propulsion. Hein, Charles de Gaulle, il y a quand même une centrale nucléaire. Il y a aussi des armes nucléaires, mais sans quand même la propulsion, la fourniture d'énergie, etc. Il y a un grand adjoint pour tout ce qui relève avec les opérations de la protection, de la détection, les missiles, etc. Et puis, bien sûr, tout ce qui relève de la vie intérieure, à la fois au plan administratif et puis au plan la nourriture, l'entretien, l'hôpital, etc. Donc, le Pacha, puisque c'est l'appellation réglementaire, réunit tous ses adjoints, en général le matin très tôt, et puis on regarde un peu ce qui va se passer dans la journée pour voir où sont les points de faiblesse, où on doit faire un effort. Et après, ça se décline, mais on ne peut pas diriger plus de 5 personnes. Chacun après décline à son niveau jusqu'aux pompiers, jusqu'aux fusiliers marins qui sont là pour surveiller que tout se passe bien, aux installations d'aviation pour surveiller que les catapultes se passent bien. Donc, et ça n'arrête pas. 24 heures sur 24, et c'est toujours le commandant qui donne ce qu'on appelle le vert, c'est l'autorisation de catapultage. Donc il faut s'organiser là.
Je vois ça. Nous voyons ça. Alors, bah, écoutez, Georges Brassens.
Ah oui, l'Auvergnat, si vous voulez bien.
Avec plaisir.
Radio Cité Genève. Viviane De Witte.
La bouteille à moitié pleine.
Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné 4 bouts de bois, quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand, les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain, quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand, les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand, les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand soleil. toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec l'amiral Coldefy, qui nous enchante, le mot n'est pas trop fort, parce qu'il nous raconte des univers que l'on voit dans les films, des univers que l'on ne peut jamais approcher, des univers que l'on imagine avec beaucoup de romantisme, je crois, et pas beaucoup de précision, et dont on découvre qu'en fait, ce sont le fait d'ingénieurs et de gens très pointus, techniquement, intellectuellement, très loin de ce qu'on imagine, au fond. On découvre ce matin, vous savez.
Bah, j'espère que vous découvrez avec plaisir, en tout cas.
Avec grand plaisir. Mais vous avez aussi pris beaucoup plaisir, je crois, à naviguer sur différentes mers, sur toutes les mers du globe, pratiquement.
Oui, à peu près,
vous
oui.
en parlez dans votre livre.
Oui, bien sûr, mais parce que derrière tout ça, qui est, là, on a décrit un peu la vie, j'oserais dire, la mécanique, mais la mécanique humaine qui est derrière la mise en œuvre d'une marine de combat. Derrière tout ça, ce qui nous soude, et c'est un peu le titre de mon livre, les étoiles, c'est pour guider, le sel, c'est le sel de la mer. Et d'ailleurs, très longtemps, la Marine nationale a fait ses campagnes de recrutement sur le thème de mettez du sel dans votre vie. Et en réalité, on est tous amoureux de la mer quand on est sur un bateau, du matelot au pacha. On aime la mer, on aime quand elle est mauvaise, on souffre quand elle est mauvaise, on a parfois des difficultés à tenir droit ou à pas rendre son repas parce que ça secoue beaucoup trop. On voit toujours des images par beau temps, etc. En réalité,
oui, c'est pas toujours comme ça.
Dès qu'on sort de Brest, de Cherbourg, qu'on est dans même les océans comme l'océan Pacifique, où il y a des alizés en permanence, il peut y avoir des ouragans, bien sûr. Il n'y a pas de mer tranquille, même la Méditerranée n'est pas tranquille.
Non, elle jamais. Pas tranquille du tout, parce qu'elle se lève très vite en plus.
Elle se lève.
Ça, j'en sais quelque chose.
C'est un petit peu différent de l'Atlantique qui se lève avec un certain préavis, parce qu'il y a plusieurs milliers de kilomètres avant que ça arrive sur. Donc on est tous amoureux de la mer. Pourquoi ? Parce que il y a toujours une part de rêve dans la vie d'un marin. Il y a une part d'aventure. On ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va, mais
quand vous parlez des lagons.
Alors après, bien sûr, c'est l'arrivée vers de nouveaux paysages, de nouvelles découvertes, parce qu'à chaque fois il y a de nouvelles découvertes. Même si, comme vous l'avez dit, moi j'ai eu la chance de quasiment naviguer, sauf dans le Haut Arctique, parce que j'ai pas eu l'occasion de dépasser la tropique qui va bien. Mais oui, on découvre des paysages merveilleux. Vous parlez de lagons, les lagons polynésiens, c'est aussi enchanteur. On se retrouve un peu du temps de Gauguin, un peu de, bon, il faut mettre une petite part de rêve, mais vous savez, tout le monde met facilement une part de rêve dès qu'on est sur la mer, parce que vous êtes pris par la mer. Moi, je ne suis pas un poète, je ne suis pas un chanteur, mais on a tous une petite part de ces poèmes qui nous ont fait rêver. Même
Kipling.
Oui, non, mais
homme libre toujours, tu aimeras la mer.
Tout à fait. Ou l'albatros avec ses ailes de géant, de Baudelaire. Il y a plein de choses qui reviennent et qui font que dans les courts moments où on peut réfléchir, parce que là on a parlé beaucoup d'opérations, mais il y a aussi des missions de la marine qui se font dans des eaux un peu plus paisibles, de présence, de ramassage scolaire, d'évacuation sanitaire, de tournée pour les bulletins de vote, etc., où on rencontre les populations, on découvre ces Français du bout du monde, hein, qui...
À qui vous apportez les bulletins de vote?
On va récupérer, ça m'est arrivé au fin fond des îles Australes, dans l'île Rapa, qui est la plus sud des Australes. Et je peux vous donner une anecdote, c'était les élections européennes de 1979, celle où Simone Veil a été élue, et dans ce petit village où c'est l'instituteur qui faisait un petit peu tout, les panneaux publicitaires, si vous voulez.
Alors ça, c'était à quel endroit?
C'était Rapa, qui est l'île des Australes la plus sud, qui est une île volcanique, qui est complètement loin de tout, sur le passage de tous les cyclones, etc. Et il n'avait rien d'autre trouvé qu'un bout bout de journal de Ici Paris, ou France, enfin, ça c'est le journal un petit peu à scandale, vous avez trouvé une photo de Simone Veil avec son bras tatoué. Il n'avait pas de profession de foi, lui. Donc il avait mis ça sur son panneau avec d'autres, etc. Donc il a fait voter les gens. Puis moi j'ai ramené les bulletins de vote qu'on ramassait dans les Australes. Ça c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que les choses qui sont un peu plus tendues sont les évacuations sanitaires, parce que il n'y a pas de terrain sur donc c'est le bateau qui fait. Donc là il faut si on a le temps embarquer un médecin.
Après les gens sont soignés à bord, comment ça se passe?
Non, justement on essaie de les amener au plus tôt vers un terrain où un petit avion peut se poser et rallier, en l'occurrence en Polynésie, l'île de Papeete, ou Bora Bora, enfin des îles du vent, ou sous le vent. Et puis, sinon, si on sait avant de partir, mais bien souvent on est déjà en mer quand on a l'alerte, eh bien on essaie par radio de savoir ce qu'il faut faire avec l'infirmier, avec... voilà. Bon, on est un petit peu tendu là, parce que la personne souffre, on embarque la famille, on embarque un peu quelques vivres. Voilà, moi j'ai jamais eu d'accident grave. Et ben, mais l'accouchement s'est fait juste à l'arrivée, donc il s'est pas fait à bord.
Heureusement.
Bon, ben, heureusement, les femmes, ça va coucher un peu partout.
Ça, oui, ça c'est vrai.
Elles sont extraordinaires. Non, pas de souci. On était un petit peu tendu quand même à bord.
Certainement. Alors, c'est une vie magnifique, c'est une vie extraordinaire, 41 ans sur l'eau. Et puis un jour, vous avez été propulsé dans l'industrie de haute technologie.
Oui.
Comment ça? Pourquoi?
Parce qu'on est venu me chercher. Je dirais que moi, je terminais ma carrière militaire, pas 41 ans sur les mers, heureusement, parce que sinon j'aurais été complètement buriné, mangé par le sel, mais parce qu'il y a quand même des postes d'état-major dans les différents domaines. Et puis non, ma carrière se terminait. Moi, personnellement, j'avais été le directeur des relations internationales, de me lancer dans l'international, et puis l'entreprise est venue chercher les équipes de Louis Gallois, qui était le président de l'époque, que je connaissais. J'étais leur client en tant que...
Comment est-ce qu'on prononce EADS, on dit?
Alors à l'époque, c'était EADS, hein, qui est devenu Airbus depuis. Qui m'ont... Alors j'étais leur client en réalité, à la fois sur Eurocopter, MBDA, Airbus, l'avion A400M. Et puis donc le challenge m'a plu, et donc voilà, j'ai été reçu par Louis Gallois. D'ailleurs, il m'avait embauché sans savoir. Et j'ai trouvé la chose passionnante. Et donc, je suis resté le temps où Gallois était président.
Et puis aujourd'hui, vous êtes à la tête de 45 000 légionnaires, c'est-à-dire titulaires de cette prestigieuse décoration de la Légion d'honneur.
Oui.
Alors, c'est une nouvelle vie.
C'est une vie totalement différente. Je dirais que... Je suis sorti de ma zone de confort.
Ah bon, pourquoi ça paraît pas confortable, tout ce que vous nous avez raconté avec les avions, les avions de combat.
Non, mais c'est un univers qu'on connaît, dont on
ils sont
connaît.
Pas méchants, les légionnaires.
je veux dire, je vois très bien ce que vous voulez dire. Quand je dis zone de confort, quand vous exercez un métier, que vous soyez chirurgien dans l'hôpital, vous connaissez la complexité du métier. Bon, la mienne, c'était un peu plus compliqué que d'autres. Enfin, c'était ça. Et là, vous basculez dans un autre monde. Mais j'avais été déjà président d'une association d'anciens élèves, dans le monde associatif. C'est-à-dire que je ne dirige pas 45 000 légionnaires. Je suis le président élu. Et moi, ma mission, telle que je la conçois, c'est que d'indiquer... Je pense souvent à la métaphore maritime. Alors, je ne parle pas du porte-avions, je parle d'un paquebot. Alors, je suis dans le paquebot, et puis j'ai 600 bateaux, parce qu'il y a à peu près 600 comités, auxquels s'ajoutent les 60 et quelques pays étrangers dont fait partie la section de la Suisse. Et j'ai essayé de leur indiquer, voilà, on va essayer d'aller là ensemble. Et si ça vous va, on y va ensemble. Ce n'est pas du tout le même mode de fonctionnement, parce que chacun apporte... Il y a une énorme diversité dans les légionnaires. Vous avez tous les corps de métier, tous les niveaux sociaux, tous les hommes, femmes, enfin, véritablement, c'est la France, hein, et à l'étranger, c'est représentation et des étrangers et des Français. Mais si je reviens sur la France, vous avez tout le panel social. Et comme notre mission, c'est de créer de la cohésion sociale dans notre pays, eh bien, je trouve que là, on est au cœur de notre mission, et puis au cœur des enjeux pour un pays comme la France, hein, qui est un peu chamboulé, un peu chahuté au plan social. Donc, voilà. Et ça, c'est très, 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 très motivant. Alors, j'appelle ça sortir. Je suis pas dans une position inconfortable du tout. Je pense pas. Mais c'est ce que j'appelle sortir de la zone de confort, qui est de rester dans son même métier, soit sous l'uniforme, soit avec un costume civil. Là, c'est totalement différent. Voilà. Quand je m'adresse à, vous savez, ma présidente du Finistère, une jeune femme née à Audierne, une jeune fille née à Audierne, fille de marin-pêcheur, orpheline à 3 ans, elle commence à laver le linge dans les hôtels avec sa mère. Elle va à l'école, elle devient maire d'Audierne, elle devient au conseil départemental, et donc à la Légion d'honneur. Et quand son mari décède, elle dit maintenant, je me consacre à la Légion d'honneur. Et elle connaît, c'était au moment des Gilets jaunes, et ça m'a beaucoup frappé. Elle sait ceux qui réclament sur les ronds-points et qui vont faire la queue au RSA, et ceux qui ne demandent rien, on en parlait au début de notre entretien, et qui, à la fin du mois, ont un billet de 5 euros dans le porte-monnaie et qui doivent encore tenir 5 ou 6 jours. Voilà, celle-là. Et ces gens-là, ils ont un témoignage absolument phénoménal. Et c'est ceux que je rencontre un peu en France. Alors, bien sûr, j'ai des préfets, des ambassadeurs, des généraux, voilà, c'est ça. C'est ça qui fait la vie et la richesse de la Légion d'honneur.
Mais ce sera le mot de la fin. Malheureusement, amiral, c'est toujours trop court. J'ai passé un moment formidable et je suis sûr que nos auditeurs de Radio Cité Genève ont passé un moment formidable à vous écouter, à découvrir des univers qu'on connaît très mal ou qu'on connaît de façon romantique et non pas très précise. Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Cité Genève ce matin et je remercie effectivement la société des membres de la Légion d'honneur suisse puisque c'est grâce à eux que vous étiez là et qu'on a pu vous entendre aujourd'hui.
Je vous remercie.
Et puis on remercie aussi Olivier Steinmetz qui nous a enregistrés. Et à bientôt pour d'autres aventures, alors des aventures des légionnaires.
Avec plaisir.
À bientôt. Au revoir, amiral.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.